Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la conférence de clôture du festival Berta Caceres, conférence qui va porter sur les enjeux de l'alimentation et de la transition écologique. On est du coup évidemment ici au cœur de l'actualité, comme vous l'avez sûrement vu. Ces dernières semaines ont été marquées par de fortes manifestations des agriculteurs, des agricultrices ici en Belgique, mais aussi en Europe, avec des revendications assez claires, hein, et des manifestations pour des meilleures conditions de travail pour que les agriculteurs et agricultrices soient mieux rémunérés, évidemment, et aussi certaines revendications qui, on va dire, clashent un peu avec certaines normes environnementales et des défis écologiques. Je pense notamment aux législations sur les pesticides, sur les jachères, donc ces terrains agricoles qu'on laisserait non travaillés. Et toutes ces revendications, en fait, si on les globalise un peu, ce sont des enjeux qui sont vraiment fondamentaux. Quel rôle pour l'alimentation dans une transition écologique juste? Comment s'assurer que les producteurs, que les paysans aient des bonnes conditions de travail et soient rémunérés à leur juste valeur? Et comment faire en sorte aussi que tout le monde ait accès à une alimentation suffisante, saine, durable, dans un monde qui produit en fait beaucoup plus que ce que dont l'humanité a en fait besoin. Et donc dans cette conférence, c'est à ces différentes questions qu'on va essayer de répondre. Alors avant de présenter nos intervenants et intervenantes, je rappelle que cette conférence, comme l'ensemble du festival, se déroule dans un cadre safer. Donc je vous demanderai de vérifier que votre téléphone soit éteint, soit en silencieux, en tout cas qu'il ne fasse pas de bruit, d'attendre le moment questions-réponses pour poser vos questions et donc d'essayer de ne pas interrompre ici la discussion avant qu'on passe à ce moment-là. Dans cette séance questions-réponses, on fera d'ailleurs attention à ce que les personnes les plus invisibilisées aient bien accès prioritairement à la parole. N'hésitez pas aussi à donner votre prénom, votre pronom quand vous prenez la parole et je vous demanderai aussi d'utiliser des manières d'applaudir silencieuses comme ça ou voilà si certaines personnes sont ici sensibles au bruit. Ceci étant dit, nous avons le plaisir d'avoir avec nous à ma gauche Alice Gendrin. Alors Alice, tu as effectué un doctorat à l'UC Louvain sur l'accès aux semences en RDC. Et tu es chargé de plaidoyer chez Île de Paix sur les politiques agricoles, hein, principalement. Alors, peut-être que tu veux dire un petit mot aussi sur Île de Paix.
Île de Paix. On m'entend bien? Ok. Donc, Île de Paix, c'est une ONG belge qui est active dans plusieurs pays en Amérique latine et en Afrique au soutien à l'agroécologie paysanne. Et depuis un an, elle est aussi en train de soutenir des projets en Belgique pour un accès à une alimentation saine pour les publics les plus défavorisés.
Super, merci beaucoup. Et à la gauche d'Alice, nous avons Manuel Egan. Donc, Manuel, tu es spécialiste des questions alimentaires et paysannes et chargé de plaidoyer chez FIAN depuis plus de 10 ans. Donc, un petit mot sur FIAN également, si tu veux bien.
Ok, donc FIAN, c'est une ONG internationale qui défend le droit à l'alimentation. Et donc, on a un secrétariat international qui est basé en Allemagne et une vingtaine de sections à travers le monde voilà, qui se regroupent autour d'enjeux à la fois de soutien à des cas individuels ou collectifs de violation du droit à l'alimentation, de plaidoyer, donc interpeller et essayer d'influencer les politiques agricoles alimentaires pour qu'elles permettent de réaliser le droit à l'alimentation et aussi un boulot de sensibilisation, mobilisation citoyenne, comme ma présence ici aujourd'hui.
Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je précise qu'on devait normalement avoir un ou une représentante du monde agricole, mais le contexte plus global que j'ai expliqué en début a fait que c'était extrêmement compliqué. Donc voilà. Alors, on va commencer ici avec environ 1 heure de discussion qu'on va structurer en 3 niveaux. Donc, on va partir du niveau global, niveau mondial, pour à chaque fois faire un zoom ensuite à l'échelle européenne et puis un zoom sur la situation en Belgique. Donc, environ 1 heure pour ces trois étapes, on va dire. Et puis, on aura évidemment un moment d'échange qui pourra durer en maximum 1 heure avec vous toutes et tous. Et donc, commençons avec ce niveau global, avec une question plutôt simple pour Manuel. Quel lien est-ce qu'on peut bêtement faire entre transition écologique et système agroalimentaire?
Alors, je ne sais pas si la question est simple, mais en tout cas, c'est clair que pour moi, il y a un lien évident entre transition écologique et transformation des systèmes agroalimentaires. Et je pense que parmi les jeunes que vous représentez, il y a une conscience grandissante que si on veut réaliser la transition écologique, il va falloir complètement transformer la manière dont on produit et on consomme l'alimentation. Et je pense que c'est pas pour rien si depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a beaucoup d'initiatives de transition qui se structurent autour de projets d'alimentation durable, que ce soit des personnes qui décident de lancer des potagers en permaculture chez eux ou des potagers collectifs, toutes les initiatives de circuits courts et de groupements d'achats communs et solidaires de l'agriculture paysanne. On voit aussi beaucoup d'initiatives de ceintures alimentaires qui se structurent autour de certaines villes, généralement à l'initiative citoyenne. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience d'une volonté de reprendre en main notre alimentation et que c'est quelque chose aussi parfois de plus concret, de plus visible de ce qu'on peut faire pour vraiment réaliser cette transition écologique plutôt que des enjeux de sortir du nucléaire ou de transformer l'industrie fossile qui sont parfois des projets qui nous paraissent plus éloignés ou sur lesquels on a moins de prise. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des initiatives citoyennes qui fourmillent, au niveau plus structurel, les politiques agricoles et alimentaires, elles continuent à favoriser quand même un système agricole productiviste et industriel dominant qui, lui, a des impacts assez forts sur l'environnement et sur le climat. Alors, peut-être pour donner quelques chiffres, quelques tendances, si on prend le dérèglement climatique, par exemple, on sait que l'agriculture est responsable environ de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et si on prend l'ensemble des systèmes alimentaires de la fourche à la fourchette, comme on a l'habitude de dire, donc en prenant à la fois en considération la production d'intrants, les pesticides, les engrais, la production agricole, la transformation par l'industrie alimentaire, l'emballage, le transport, la consommation et jusqu'au gaspillage alimentaire, ben là on évalue à environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui sont directement liées au système alimentaire. Donc c'est évidemment énorme et ça fait prendre conscience qu'on n'arrivera pas à respecter les objectifs climatiques si on ne fait pas une transformation profonde des systèmes alimentaires. Et malheureusement, là, on voit quand même qu'au niveau international, dans les COP qui se succèdent chaque année, les enjeux alimentaires sont assez peu discutés, en fait, assez peu pris en compte par rapport à d'autres enjeux et qu'il va falloir s'y attaquer. Au-delà de la question climatique en tant que telle, il y a aussi toute une série de limites écologiques. Donc, je pense que vous avez tous déjà vu ce schéma avec les 9 limites planétaires, donc des limites géo-bio-physiques qui ont été identifiées si on veut essayer que l'humanité puisse continuer à évoluer dans une zone de sécurité. Et on voit que les systèmes alimentaires sont un des principaux contributeurs à ces limites planétaires. Pour au moins 5 d'entre elles qui ont déjà été dépassées, les systèmes alimentaires sont un des premiers contributeurs. Donc il y a le changement climatique, je l'ai déjà mentionné. Il y a aussi l'effondrement de la biodiversité, ou la destruction des habitats qui est liée au système agroalimentaire et la pollution liée aux pesticides et aux autres matières, aux intrants chimiques, sont des principaux responsables du déclin de cette biodiversité. Il y a la question de l'utilisation des terres, et donc là, la déforestation et les changements d'affectation des terres qui sont liés à l'agriculture sont aussi le premier contributeur de cette limite planétaire. Il y a aussi les cycles biochimiques du phosphore et de l'azote. Donc ça, c'est des molécules qui sont principalement utilisées pour la production d'engrais et qui ont perturbé les cycles naturels qu'on n'arrive plus à rétablir. Et c'est quoi la dernière limite planétaire? Ah oui, et les réserves d'eau douce. Donc l'eau douce qui est à la fois nappes phréatiques sont polluées par les intrants chimiques de l'agriculture, et l'agriculture est le premier utilisateur d'eau douce et donc là aussi contribue à épuiser les réserves. Donc on voit que ce modèle agro-industriel qui s'est globalisé, généralisé, a un impact énorme sur ces limites planétaires et de nouveau qui montre qu'on doit changer la manière dont on produit et on consomme la nourriture tout en réalisant un autre défi immense de notre civilisation, c'est d'assurer une alimentation saine et adéquate pour l'ensemble, pour chaque être humain.
Merci beaucoup, Manuel. Donc, beaucoup d'initiatives citoyennes, donc, mais structurellement, en tout cas, pas énormément d'avancées, ou en tout cas pas dans les grandes réunions internationales. Alors, j'en profite, tu dis qu'un
des autres grands défis, c'est que tout le monde ait justement accès à une alimentation en suffisance. Et on sait qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes souffrent encore de la faim. Donc, Alice, est-ce que tu peux un peu nous dresser un peu un état des lieux à ce niveau-là et aussi nous répondre à pourquoi une transition écologique alors que justement beaucoup de personnes ont encore faim?
Oui, ben, d'accord. D'abord, je pourrais peut-être dire que souvent on dit ben, c'est peut-être difficile en fait de amorcer cette transition écologique alors qu'en fait il y a encore beaucoup de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Au niveau des chiffres, voilà, il y a encore 700 actuellement. Les derniers chiffres datent de 2022. C'était 735 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, ce qui représente 9,2% de l'ensemble de l'humanité. Et là, on parle juste de la faim, donc de personnes qui souffrent vraiment de carences nutritives très importantes qui touchent leur fonction vitale. Après, on a 2,4 milliards de la population qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Cela signifie des personnes qui n'ont pas assez, qui n'ont pas un accès suffisant à une alimentation de qualité et en quantité suffisante, ce qui représente presque 30% de la population mondiale. Et encore, sur l'ensemble de la population, il y a 3,1 milliards de personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'accéder à une alimentation en quantité et qualité suffisante. Donc on voit qu'il y a différents grades de situation d'insécurité alimentaire, de la plus sévère à la moins sévère, même si ça reste significatif et un enjeu de taille qu'il faut adresser. Et donc on demande souvent, mais voilà, vu cette situation-là, est-ce qu'on peut vraiment parler de transition écologique? Il faut produire plus pour pouvoir nourrir l'ensemble de la population. En fait, l'enjeu ne se trouve pas au niveau de la quantité de denrées alimentaires produites, parce qu'aujourd'hui, au niveau global, au niveau mondial, suffisamment de denrées alimentaires sont produites pour nourrir toute la population mondiale, même plus. Donc l'enjeu n'est pas un enjeu de quantité, mais bien d'accès, de comment la société est structurée, comment tout ce système alimentaire, agricole, fonctionne.
Donc, merci beaucoup. Question alors, je vais de nouveau dire un peu simple, mais évidemment la réponse ne sera pas simple. Mais si on produit assez, pourquoi est-ce que des personnes aujourd'hui ne mangent pas, n'ont pas accès à cette alimentation en suffisance?
Eh bien, une première façon de répondre à cette question, c'est de regarder qui sont les personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui et en situation d'insécurité alimentaire. Eh bien, d'abord, on peut constater que c'est en majorité des personnes qui vivent en milieu rural, qui vivent de l'agriculture. Donc c'est majoritairement des paysans et des paysannes. Ce qui est, à première vue, tout à fait paradoxal. On se dit, mais comment c'est possible, les personnes qui produisent, comment ça se fait que c'est elles qui, justement, souffrent le plus de la faim? Eh bien, ensuite, on peut voir que, dans les chiffres, ce sont majoritairement les femmes et les filles qui souffrent le plus de la faim. De nouveau, un paradoxe, puisque en milieu rural, ce sont majoritairement les femmes et les filles qui sont responsables de l'agriculture vivrière, donc de cultiver pour la famille. Un autre paradoxe, et puis un troisième paradoxe, c'est que quand on regarde les chiffres et comment sont réparties les populations, justement, où se trouvent les populations qui souffrent le plus de la faim et de l'insécurité alimentaire, on voit que c'est majoritairement en Afrique, avec 61% de ces populations-là, des groupes de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. Ensuite, on voit l'Amérique latine avec 38%, l'Asie 24%, l'Amérique du Nord et l'Europe 8%. Pourtant, le continent africain et le continent sud-américain ont énormément de terres cultivables, pas seulement cultivables, mais aussi cultivées, avec des flux mais justement qui quittent, avec énormément d'importations. Donc ça, ce sont trois paradoxes qui justement éveillent amène à réfléchir sur ces causes. Ce n'est pas une question de suffisamment de terre, ce n'est pas une question de cultiver ou de ne pas cultiver, c'est qui a accès à ces denrées. Et donc là, on peut voir, première chose, un des premiers éléments, c'est la colonisation, puisque les
terres sur lesquelles les cultures qui sont exportées, ce sont des cultures historiquement des cultures de rente. Et donc, une grande superficie des terres sont exploitées et ont été accaparées à l'ère coloniale et continuent d'être encore accaparées aujourd'hui. Un aspect sur lequel Manuel, j'imagine, abordera juste après. Donc, je ne vais pas trop creuser cet aspect-là maintenant. Donc il y a d'abord cet aspect-là, cet aspect de mais qui a accès en fait à ces terres. Donc il y a un premier ici système d'exploitation, de domination qui est en place. Un deuxième système d'exploitation est celui du patriarcat, puisque alors là il prend des formes évidemment très différentes d'un endroit à une autre avec des conséquences différentes, mais on peut voir qu'avec la colonisation, une certaine forme de patriarcat est devenue plus hégémonique. Au niveau global, celui du patriarcat européen, et donc avec toute une série d'implications et de conséquences. Par exemple, c'est l'homme qui est chef de famille, c'est lui qui est propriétaire de la terre. Cette aussi notion de propriété est aussi, vient justement de l'Europe coloniale. Donc c'est à lui qu'appartient, c'est lui qui a le droit de vendre la terre, de céder, etc. Donc, ce qui met déjà les femmes dans une certaine position de vulnérabilité. On retrouve aussi, comme deuxième variable, l'héritage. Qui hérite des terres ? Donc, il y a, ben, en fait, le chef de famille, c'est généralement les hommes. Et donc, du coup, dans la plupart, dans de nombreuses régions, les femmes n'ont pas le droit d'hériter de la terre, n'ont pas le droit d'être propriétaires. Et même les cultures qui sont cultivées, même si, voilà, dans... Voilà, ici, ce sont des tendances générales, bien sûr, à nuancer en fonction des contextes. Mais quand on reprend ces tendances générales, voilà, ce qui est cultivé est aussi une décision généralement du chef de ménage. Ce qui fait que, là, je vais parler en tant que chercheuse, dans mes recherches de terrain à l'est du Congo, ce que j'ai beaucoup vu, c'est que voilà, des femmes avaient perdu leur terre parce que leur mari l'avait vendue, elles avaient perdu leur récolte parce que leur mari avait vendu. Et voilà, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas seulement à l'est du Congo. Et donc ça, c'est un aspect qui met aussi les femmes en position de vulnérabilité. Un autre aspect, c'est que l'alimentation de qualité va être davantage octroyée aux hommes et aux fils dans les ménages. Et donc voilà, ce sont tous des éléments qui combinaient les uns avec les autres. On peut parler ici hors Europe, mais aussi en Europe, on retrouve aussi des femmes dans les ménages ruraux qui sont aussi beaucoup plus vulnérables, puisque ça fait très peu de temps que leur statut s'est amélioré, etc. Donc au niveau de la pension, on a des grosses inégalités. Voilà, donc là, c'est les deux variables qui influencent fortement l'alimentation. Je réfléchis. Oui, voilà.
Merci beaucoup. Tu en as donc un triple paradoxe, hein, les populations qui souffrent le plus de la précarité alimentaire se trouvent plutôt en milieu rural, en milieu paysan. Ce sont plutôt les femmes et les filles, alors que ce sont elles qui sont les plus impliquées dans la production justement des denrées alimentaires. Et finalement, géographiquement, c'est dans des zones plutôt productives, ou en tout cas où il y a accès à la terre, que l'insécurité alimentaire est la plus forte. Une des causes que tu as pointées, c'est le patriarcat. Est-ce qu'il y a encore d'autres causes que tu veux explorer ?
Oui. Alors ici, j'ai aussi oublié de mentionner, bien sûr, il y a le conflit et la question du dérèglement climatique. Et en fait, voilà justement ces dimensions de conflit, donc les personnes qui se déplacent, etc., perdent tous leurs moyens d'existence, sont évidemment celles qui sont le plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. Mais de nouveau, on retrouve ces systèmes de domination qui se retrouvent dans ces populations-là au niveau des conflits, mais aussi au niveau des dérèglements climatiques, puisque les personnes qui ont les plus de difficultés à s'adapter, non pas parce qu'elles ont un problème, elles, mais parce que le système les a mis dans cette situation, c'est justement l'agriculture de petite échelle, l'agriculture paysanne. Puisque face au dérèglement climatique, aux aléas climatiques, voilà, les ménages qui ont mis toutes leurs semences qu'elles conservent, etc., donc elles ne recourent pas au marché, elles conservent leurs semences, elles les sèment au début de la saison, et puis là, il y a une sécheresse, il y a une grêle, etc. Il y a un aléa qui fait qu'elles perdent tout. Et donc voilà, il y a ce dérèglement climatique-là qui vient aussi amplifier la vulnérabilité de ces populations.
Merci beaucoup. Alors, tu l'as dit en filigrane, il y a évidemment cette question de l'accès à la terre. On sait que de nombreux paysans, de nombreuses paysannes font face à des accaparements de la terre par des grandes entreprises, par des États. C'est une thématique sur laquelle Fian travaille beaucoup. Alors Manuel, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'accaparement des terres? Qu'est-ce qu'on entend par là? Quelles en sont surtout les raisons? Et peut-être aussi nous présenter quelques cas concrets qui malheureusement impliquent souvent des entreprises belges.
Oui, donc c'est effectivement un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec Fian, cette question de l'accès à la terre. Et on voit effectivement depuis... ça a toujours été une exploitation, la colonisation, même depuis Christophe Colomb, en fait, l'accaparement des terres mondiales par la civilisation occidentale a toujours existé. Mais il y a eu un accroissement de ce phénomène depuis une quinzaine d'années avec le déclencheur de la crise alimentaire de 2007-2008. Où il y a eu vraiment cette nouvelle ruée mondiale sur les terres. Alors, si on essaye d'expliquer un peu les causes de ce phénomène, on peut reprendre de manière un peu caricaturale ce théorème cher aux économistes de l'offre et de la demande. Et en fait, on constate qu'il y a une tension très forte sur les marchés fonciers entre, d'une part, une offre de terres qui, elle, est limitée, donc une disponibilité de terres agricoles, où on commence à se rendre compte qu'elle est limitée. Et là, je fais référence aux limites planétaires. On ne peut plus continuer à défricher, à déforester sans arrêt pour trouver de nouvelles terres agricoles. Et donc, on atteint une certaine limite. Et en plus de ça, l'ONU documente un phénomène lié au dérèglement climatique, mais aussi à cette généralisation du modèle agricole intensif et productiviste, où il y a une dégradation des sols agricoles. Et on évalue que près d'un quart des sols agricoles seraient menacés à terme de ne plus être productifs. Donc, de nouveau, ça limite la disponibilité des terres agricoles. Mais de l'autre côté, on a la demande en terres agricoles et en produits agricoles qui ne cesse d'augmenter pour toute une série de facteurs. Il y a d'une part un fait qui est l'augmentation de la population mondiale. Enfin, j'ai ma grand-mère qui va bientôt fêter ses 95 ans, donc presque un siècle. Et quand elle est née, on était 2 milliards sur Terre. Aujourd'hui, on est 8 milliards. En une vie humaine, c'est quand même x4. C'est assez extraordinaire comme évolution. Mais surtout lié à ça, c'est la surconsommation dans les pays occidentaux et les transformations de régimes alimentaires dans les pays émergents avec des régimes alimentaires plus gourmands en produits animaux et en protéines animales qui, on le sait, demandent plus de terre. Donc avec une calorie animale, on a besoin de 7 à 9 calories végétales pour être produit. Donc ça demande plus de terre au final pour être produit. Une cause supplémentaire, c'est qu'on n'utilise plus seulement les produits agricoles pour nourrir les humains ou même les animaux, mais pour nourrir nos voitures. Donc ça, c'est la production des agrocarburants, biocarburants, ces matières agricoles qu'on utilise pour produire du bioéthanol ou du biodiesel. Mais forcément, ça rajoute encore des terres agricoles qui sont nécessaires pour produire ces énergies. Et de manière plus globale, en fait, tous les produits de ce qu'on appelle la bioéconomie, donc c'est tous ces matières issues de matières agricoles ou des produits forestiers ou d'autres matières organiques qui sont utilisées comme matériaux de construction, parfois pour remplacer des matériaux en plastique. Hein. On a des gobelets maintenant qui sont faits avec du maïs, etc. Parfois pour des considérations écologiques, mais qui augmentent de nouveau cette pression foncière. Sans parler de nouveau de la lutte pour le réchauffement climatique, où on a besoin de nouvelles terres pour reforester ou pour des terres agricoles qu'on utilise pour des champs éoliens ou photovoltaïques ou pour capter, en fait, séquestrer du carbone. Mais ça rajoute de nouveau une pression et une spéculation sur les terres agricoles. Et donc, vous avez, comme je disais, cette tension entre une offre limitée, une demande qui augmente. Et donc, dans cette situation, il y a des grands acteurs, que ce soit des États ou des grandes entreprises, qui veulent prendre le contrôle de cette ressource qui devient rare et précieuse, ou en tout cas stratégique, des terres agricoles. Et donc, forcément, la loi du plus fort étant toujours la meilleure, ce sont ces entreprises qui accaparent ces terres aux dépens des populations paysannes rurales. Et là, je pense qu'il faut se rendre compte, la pauvreté rurale, elle a toujours existé. Et c'est un phénomène contre lequel il faut lutter. Mais il y avait encore une certaine dignité paysanne quand vous avez votre accès à la terre. Parce que ça vous permet de produire votre agriculture de subsistance, de revendre un petit peu les surproduits. Mais si on vous prive de cet accès à la terre, vous plongez ces populations dans une situation de misère absolument abjecte, où en plus de leur alimentation, elles perdent aussi tout le matériel qu'elles trouvent sur leur terre pour construire leur logement, pour se chauffer, les plantes médicinales où elles vont se servir dans les forêts pour se soigner. Et aussi au niveau culturel et social, c'est vraiment plonger ces populations, les priver de toute la dignité qui leur restait. Et là, avec Fian, effectivement, j'ai eu l'occasion, enfin, on a l'occasion de soutenir, de suivre certains cas où des acteurs belges sont parfois impliqués. Donc là, voilà, on voit quelques photos. Ça, c'est une entreprise Socfin, qui est une entreprise qui est la propriété d'un homme d'affaires belge qui s'appelle Hubert Fabry, qui est relié par ailleurs au grand groupe français Bolloré, dont vous avez déjà certainement entendu parler. Et donc Socfin, c'est une entreprise qui date de l'ère coloniale, qui a fait ses premières fortunes dans le Congo colonial, mais qui a encore largement étendu ses acquisitions de terres depuis une quinzaine d'années, donc depuis ce nouveau phénomène d'accaparement de terres. Et donc maintenant, qui contrôle plus de 400 millions d'hectares, 400 000 hectares de terres agricoles en Afrique et dans une partie d'Asie. Alors on s'embrouille souvent dans les chiffres, mais 400 000 hectares, en fait, ça représente plus de la moitié des terres agricoles wallonnes. Donc c'est comme si une entreprise possédait la moitié des terres agricoles en Wallonie. Et là, moi j'ai eu l'occasion de me rendre en Sierra Leone, où l'entreprise a accaparé 18 000 hectares de terre. Ça représente plus de deux fois la commune où moi j'habite, qui est la commune de Genappe, qui est la plus grande commune d'ailleurs agricole du Brabant Wallon. Donc c'est comme si une entreprise venait du jour au lendemain dire à deux communes « Merci, vous pouvez prendre vos valises et on va utiliser toutes les terres ici pour faire des plantations. » Là, en l'occurrence, c'est de palmiers à huile. J'étais parti en mission. Je suis parti trois fois en 2012, 2016 et 2018. Appuyer ces populations qui essayent de faire valoir leurs droits, parce qu'en fait, c'est quand même une propriété qui, à la base, est la leur, en tout cas sur base coutumière. Donc elles ont occupé ces terres pendant des générations. Et là, maintenant, elles doivent lutter contre l'entreprise et le gouvernement, évidemment, qui sont de connivence et qui les éjectent de leurs terres. Ce qui amène, peut-être à la dia suivante, aussi à des cas de criminalisation. On voit, là, par exemple, ce sont six leaders communautaires de l'organisation locale qui s'appelle Maloa, qui essayent de mener la lutte contre cette entreprise et qui se sont retrouvés à cause de ça plus de six mois en prison suite à leur résistance, avec aussi lors des échauffourées, de manifestations des paysans face à l'entreprise. Il y a deux personnes qui ont été tuées par balle par les agents de sécurité de l'entreprise. Et donc on essaye de se mobiliser. Là, on a organisé notamment pendant plusieurs années des actions devant l'Assemblée générale de l'entreprise pour sensibiliser les actionnaires et essayer de mettre fin à ces situations. Ce qui nous a valu par ailleurs, nous-mêmes ici en Belgique, d'être attaqués en diffamation par l'entreprise. Et donc depuis plus de 4 ans maintenant, on est devant les tribunaux pour essayer nous-mêmes de nous défendre, d'avoir essayé de faire valoir les droits de ces communautés. Alors le cas suivant que je mentionne, ce sont les Indiens Guarani Kaiowa, qui sont là dans la région du Mato Grosso do Sul au Brésil, et là qui depuis les années 70-80 font face à l'expansion tout d'abord des cultures de soja, ce fameux soja dont nous sommes extrêmement dépendants ici en Europe, notamment pour nourrir notre bétail. Et donc, au fur et à mesure, ces Indiens Guarani, qui sont environ 40 000 dans cette région du Brésil, sont confinés dans des mini-réserves indigènes, où ils sont laissés à l'abandon, avec une espérance de vie qui est de l'ordre de 48 ans dans ces réserves, alors que la moyenne au Brésil est de 73-74 ans, je crois, maintenant. Ils versent dans l'alcoolisme, avec beaucoup de criminalité, etc. Donc, c'est... Voilà. Et aussi, sur la dia suivante, c'est les Indiens Guarani Kiowa sont particulièrement frappés par l'expansion des cultures de canne à sucre qui servent notamment à la production d'agrocarburants. Et là, pour faire aussi un lien avec l'actualité, on parle beaucoup de l'accord UE-Mercosur. Dans cet accord économique, on prévoit d'importer de beaucoup plus grandes quantités en fait, de bioéthanol à base de canne à sucre, de nouveau pour parfois nos objectifs biocarburants qui sont considérés comme des énergies renouvelables. Un dernier cas que je mentionne, ici c'est le cas SIAT, c'est aussi une entreprise belge agro-industrielle. Ici c'est en Côte d'Ivoire où on appuie des communautés là, qui font face à une plantation d'EVA. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici sait à quoi on utilise l'EVA, non ? Exactement, donc voilà, on récolte la sève pour faire du caoutchouc qui sert notamment pour les pneus de Michelin ou Goodyear. Et donc là aussi on a manifesté devant le siège de l'entreprise avec ces pneus justement ensanglantés qui symbolisaient la lutte paysanne. Et donc voilà, ces situations vraiment de misère dans lesquelles on plonge ces populations quand on les prive d'accès à la terre, et la criminalisation, là je pense que le lien est assez fort avec le nom du festival, hein, ici Berta Cáceres, qui était une activiste aussi qui se battait pour les droits à la terre et les droits environnementaux des populations. Et en fait, ça... C'est répertorié aussi que les défenseurs du droit à la terre et de l'environnement sont les plus criminalisés au niveau mondial, avec plus de 250 personnes qui ont été assassinées encore l'année passée parmi ces activistes.
Merci beaucoup Manuel. Donc une tension croissante entre en fait une offre de terre qui fait diminuer, notamment à cause du dérèglement climatique, et une demande qui fait qu'augmenter, pas spécialement avec... d'une partie avec l'augmentation de la population, mais également avec l'utilisation de denrées alimentaires pour d'autres usages, ce qui permet l'émergence d'acteurs forts. Tu en as parlé, les États, les entreprises, des personnes comme Bolloré, toujours dans les mauvais coups, évidemment, et qui aboutit évidemment à cette criminalisation des activistes et à cette situation d'insécurité alimentaire pour une grande proportion de la population. Et donc justement, cette faim dont souffrent énormément de personnes, notamment à cause de cet accaparement des terres, comment est-ce qu'on peut en sortir? Quelle voie pour en sortir? Comment est-ce qu'on peut aller au niveau mondial vers des systèmes alimentaires durables, un peu la recette magique, hein, et ça c'est pour toi cette question, Alice.
Merci. Alors, il n'y a pas de réponse simple, mais voilà, dans les éléments qu'on a déjà un peu soulevés aujourd'hui, je pense que la première chose, c'est prendre conscience des institutions d'oppression, des systèmes qui sont non seulement institutionnalisés, mais qui sont aussi portés par des imaginaires. Donc c'est d'abord prendre conscience et puis chercher à les démanteler. Donc toututes ces discriminations qui sont basées pas seulement sur le genre, mais aussi sur l'orientation sexuelle, sur le racisme, sur le fait de raciser, d'ethniciser les populations. Et voilà, et toutes les variables qui sont le terreau fertile à la discrimination. Donc il y a d'abord variable-là, et puis il y a une autre dimension qui est aussi celle de la dette, que je n'ai pas encore mentionnée jusqu'à présent, mais voilà, c'est une variable importante au niveau des rapports internationaux. Il faut savoir que lorsque les États ont été colonisés, quand ils ont été décolonisés, la plupart de ces États ont dû payer une dette coloniale, c'est-à-dire que les États coloniaux ont contracté une dette pour coloniser ces territoires, et les territoires nouvellement indépendants ont hérité de cette dette. Ce qui est d'abord tout à fait illégitime, et donc d'abord, il y a cette question-là qui est encore aujourd'hui non résolue, et puis il y a d'autres dettes qui ont été contractée par les pays nouvellement indépendants, qui ont servi pour certains pays à enrichir le compte en banque des dirigeants. Et donc voilà, il y a encore aujourd'hui des populations qui doivent payer le prix de ces mesures qui ont été là. Des dettes qui sont pas seulement juste des dettes à rembourser, puisqu'elles ont été suivies des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire que les institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI ont prêté cet argent et puis, n'en revoyant pas la couleur, ont commencé à mettre en place des mesures d'échelonnement, de réduction, mais avec des conditions. Alors, quelles conditions ? Eh bien, la privatisation de certaines structures, coupées dans les dépenses publiques comme la scolarisation, mais en fait, c'est aussi toutes des dépenses qui étaient octroyées, par exemple, à l'entretien des routes. Et donc, toutes les dépenses qui soutenaient aussi l'agriculture au niveau national, voilà, ces dépenses ont été coupées et ce poids de la dette est toujours, toujours d'actualité, toujours présent, et met un rapport de force entre les États. Et puis, ben, justement, cet héritage de la dette de la colonisation est toujours présent, puisque aujourd'hui, au sein des institutions internationales, on distingue les pays entre eux, comment en parlant de pays développés et de pays en développement. Et cette appellation n'est pas juste symbolique, elle a un fort poids, un fort héritage colonial, mais elle a des conséquences aujourd'hui. Ça veut dire que dans les conventions, les accords et les traités internationaux qui sont signés, les obligations des pays sont différentes. Et ce qu'on retrouve généralement, c'est que les pays en développement reçoivent des financements des pays dits développés pour implémenter ces accords internationaux. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que du coup, ce sont les pays dits développés qui financent des politiques dans les pays dits en développement. De nouveau, en termes de souveraineté, on retrouve un rapport de force et un rapport de domination qui est donc, pour moi, ici, donc, je parle en tant que chercheuse, à déconstruire. Après, en termes de contenu, justement, contenu des politiques, quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre, des politiques de libre-échange et des politiques historiquement de modernisation de l'agriculture. Alors, cette modernisation, elle contribue justement encore à la fin. Voilà, c'est une cause que j'ai pas mentionnée, mais voilà, je la mentionne dans les solutions. Mieux vaut tard que jamais. Et donc cette politique de modernisation qui est là depuis la colonisation et qui est perpétuée à travers les politiques de développement international, ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire des forêts déboisées, des grandes surfaces, faire de la monoculture, faire des cultures de rente pour l'exportation, par exemple comme Manuel l'a mentionné, que ce soit des cultures qu'on connaît comme le coton, le café, etc., mais puis aussi les biocarburants, puis le soja pour nourrir le bétail, et tous ces flux vont vers du coup les continents qui sont les moins en proie à la faim et la souveraineté et l'insécurité alimentaire. Et donc oui, tout ça, c'est des conséquences, mais d'autres encore qui sont moins visibles. Alors la modernisation, c'est pas seulement l'industrialisation de l'agriculture, c'est aussi toute la négation des savoirs et des pratiques autochtones, indigènes, ancestrales, c'est-à-dire la déspiritualisation de la matière. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne parle pas trop ici, ni même dans les questions de transition écologique, mais c'est en fait tout un rapport au monde et au vivant. Voilà, il y a des peuples et nous aussi d'ailleurs, hein, je dis même en Europe, c'est à partir de la modernisation, donc avec Descartes et Bacon, donc 16e siècle si je me trompe pas, les Lumières, que on a commencé à, une certaine élite européenne dotée de certaines ressources financières et de propriétés et de position au sein de la société. Qui ont commencé justement à mettre en place des politiques pour décrédibiliser et oppresser toutes les manières de vivre au monde qui étaient différentes de la modernité. Donc, c'est-à-dire de voir la terre comme un bien non aliénable, donc c'est-à-dire ne peut pas être vendu. Il en va de même pour les semences, etc. Et donc, en fait, c'est un rapport aussi à la nature qui est imposé au reste du monde. à travers ces politiques développementalistes. J'espère que je ne vous ai pas perdu. donc voilà, alors la voie pour sortir de ça, eh bien, c'est l'inclusivité, c'est-à-dire reconnaître à chacun et à chacune le droit de décider pour les politiques qui les concernent. Voilà, c'est un principe simple qui se peut s'appliquer dans toute une série de situations. Et il en va de même pour la question des systèmes alimentaires. Souvent, un concept a été développé pour parler de ça, le concept qui s'appelle souveraineté alimentaire. Donc, pour que les populations puissent décider ce qu'elles mangent, etc., plutôt que de recevoir des politiques internationales et de devoir les mettre en place, financées par certaines organisations, mais aussi grosses fondations. Pour synthétiser, alors tout ce que je viens de dire se regroupe aussi, peut se retrouver sous le concept de agroécologie. Donc voilà, le concept d'agroécologie qui est donc des pratiques agricoles qui respectent le vivant, l'ensemble du vivant. Donc c'est faire de l'agriculture en soutenant le vivant, donc la biodiversité, etc. On peut retrouver, enfin voilà, c'est, concrètement ça peut s'expliquer de plusieurs manières, mais c'est aussi des pratiques agricoles qui soutiennent les services écosystémiques. Alors si, c'est encore un concept, désolé, je mobilise beaucoup trop de concepts aujourd'hui. Donc c'est un concept qui implique que le vivant soutient le vivant. Donc par exemple, le fait que certains prédateurs vont éliminer certains ravageurs ou des plantes qui vont justement éloigner certains insectes qui sont prédateurs, etc. Et donc c'est plutôt que de contrôler, de chercher à contrôler, etc., à coup d'intrants chimiques, de synthèse, dérivés de produits pétroliers, c'est vraiment faire avec la nature. Donc c'est rentrer dans une complexité, voir la nature justement comme un ensemble duquel on fait partie et voir que tous ces éléments interagissent et sont en interdépendance. Ça s'applique à l'agriculture, mais aussi aux sociétés humaines, puisque... on fait partie intégrante de la nature. Voilà, je pense que j'ai terminé.
Ouais, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir su compléter. Donc, en résumé, dans les voies de sortie, justement, de la situation actuelle, tu pointes le démantèlement des structures d'oppression, qu'elles soient immatérielles ou, justement, très matérielles, comme les questions des dettes illégitimes. Tu remets également en question le paradigme de la modernisation et du développement et certaines pratiques également qu'on peut trouver justement dans ces politiques développementalistes mises en œuvre dans les années 80 et toujours maintenant par les institutions internationales, mais aussi certaines ONG. Et tu apportes également en solution l'inclusivité et des pratiques basées sur la nature, l'agroécologie et aussi le respect de toute la diversité des manières de vivre avec le monde et de ne pas rester bloqué dans ce paradigme moderne d'opposition nature-culture, si j'ai bien résumé. Et je vois une main levée, mais il est 14h50, on a fait qu'un bloc, il en reste deux. Donc, très courtement, je t'en prie.
Juste pour donner une anecdote, que c'est aussi vraiment un travail que je me suis rendu compte à quel point on doit le faire en interne aussi au sein de nos mouvements et associations. C'est un exemple très simple, mais on faisait une publication sur justement les enjeux du système alimentaire. Donc, on réfléchissait sur les titres et c'était comment lutter, reprendre le contrôle, battre l'agro-industrie. Et il y a une chercheuse, effectivement, qui m'avait dit mais Manu, ce qui est important, c'est justement passer de ce contrôle, cette domination à un care. Prenons soin de l'environnement, réinventons la souveraineté alimentaire, etc. Et je me suis rendu compte, à quel point aussi c'est un travail réel qu'on doit faire en interne chez nous.
Merci beaucoup. C'était court, donc merci beaucoup. on a plus énormément beaucoup de temps, donc malheureusement sur les deux autres niveaux, on va devoir aller un peu plus vite, mais évidemment dans vos questions, vous êtes libre de revenir plus en profondeur sur ces sujets-là. Donc on va un peu zoomer, on va aller sur le contexte européen, de l'Union européenne. Donc j'en parlais au début, avec les mobilisations agricoles qu'on a vues ces dernières semaines, on voit pas mal de revendications qui portent justement sur des questions écologiques ou sur des mesures écologiques prises par l'Union européenne, notamment dans le cadre du Green Deal, et qui sont remises en question. Alors en fait,
pourquoi, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation, Manuel? Comment ça se fait qu'une partie du milieu paysan semble justement demander moins de contraintes et moins de normes environnementales?
Oui, c'est effectivement, enfin là on est au cœur de l'actualité et je pense qu'on subit tous un peu ce chamboulement et comment se positionner par rapport à ça. Mais je pense en tout cas que cette crise, cette colère agricole, pour moi ce qu'elle révèle, c'est vraiment, il faut en prendre la mesure, c'est cette réelle détresse et cette situation dans laquelle se trouve le milieu agricole ici en Europe et finalement qui est comme les agriculteurs du Sud, se retrouvent comme ceux qui sont les broyés du système. Quoi. C'est ceux qui sont au bout de la chaîne, ceux qui se retrouvent dans ces rapports de domination face à ces acteurs agro-industriels puissants et qui sont vraiment dans une détresse. Et on a un modèle qui détruit les agriculteurs et les agricultrices. Et au sens propre comme au sens figuré, il faut prendre conscience en Europe, en tout cas sur les chiffres belges que je connais, on a perdu 70% de nos agriculteurs depuis 1980, donc 70% des fermes qui ont disparu. C'est l'agriculture, on en parle beaucoup maintenant sur les revenus des agriculteurs, mais qui sont vraiment en dessous de la moyenne des autres activités professionnelles, parfois sous le seuil de pauvreté. Et c'est le métier dans lequel on retrouve le plus de suicides comme secteur professionnel. Donc je pense qu'il faut prendre conscience vraiment de cette détresse qui est dans le milieu agricole et qu'il faut réussir à rebâtir des ponts parce que la transition agroécologique, on n'arrivera pas à la faire si on ne la fait pas avec les agriculteurs et les agricultrices. Et là, je pense que ça doit nous interroger et vous interroger aussi en tant que jeune écologiste, parce que c'est clair qu'on voit qu'il y a un fossé qui s'est créé entre le milieu agricole et le milieu écologiste et qu'il va falloir rebâtir. Et je n'ai pas les solutions pour ça. Dans nos organisations de souveraineté alimentaire, on essaye quand même de travailler de plus en plus avec les syndicats agricoles. Alors, on a décidé qu'on ne travaillerait pas avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture, qui est le syndicat dominant lié à la COPACO-GECA, qui reste un acteur dominant du système. Mais par contre, on essaye de vraiment de travailler avec la FUGEA, le Mouvement d'Action Paysanne, l'UNAB qui représente les bio, pour trouver comment réussir à réussir cette transition agricole qui demandera beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'on était à leur côté en fait, pendant les mobilisations agricoles ici pour montrer notre soutien. Maintenant, si on voit les résultats de cette crise agricole et les mesures politiques qui suivent, effectivement, c'est une catastrophe. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. On a parlé effectivement de certaines mesures du Green Deal comme les 4% de jachères qui ont été abandonnées ou cet abandon de la loi régulation sur les pesticides. Ce n'est pas les seules mesures parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs mois que la stratégie de la ferme à la fourchette, qui est la composante agricole donc, du Green Deal, a été fortement attaquée par des lobbies. Et donc, il y a une loi cadre qui devait mettre en place en fait, cette stratégie Farm to Fork qui a été mise de côté. Donc, on ne l'aura pas sur cette législature de l'Union européenne. Et par contre, de l'autre côté, on voit des législations qui sont poussées par l'agro-industrie, comme la loi sur les nouveaux OGM, où là, on fait le maximum pour qu'elle soit adoptée avant la fin de la législature. Et donc, il y a un recul énorme au niveau environnemental et de transition qui nous fait perdre énormément de temps et qui est une catastrophe parce qu'on devra y passer. Si on repart des enjeux que j'expliquais au début, on va devoir y passer. Et la retarder, ça ne va faire que faire une chute plus brutale à un moment donné. Donc voilà, je suis assez dépité et en même temps, on est obligé de réussir à travailler en collaboration avec les mouvements paysans et agricoles pour savoir comment est-ce qu'on va la réussir, cette transition écologique. Mais ça demande encore beaucoup de travail.
Et alors, justement, dans ces politiques européennes qui sont, on va dire, pas très environnementales, ou comme certaines régulations des pesticides, certains accords de libre-échange, l'absence ou l'intégration de clauses miroirs, comment tous ces éléments qui sont mis en place par des politiques européennes peuvent très concrètement impacter négativement les agriculteurs, les agricultrices européens et, in fine, le consommateur, Alice?
Merci pour cette question. Eh bien oui, dans les mobilisations agricoles, une des revendications de la FUGEA a été de mettre un terme aux accords de libre-échange, et en particulier celui du Mercosur. Parce que dans ces accords, il y a bien sûr une question de concurrence déloyale. Ouais, alors c'est un concept compliqué et sensible, mais voilà, il y a cette idée dans cet accord de libre-échange de mettre en concurrence des agricultures de deux contextes complètement différents. Et une dimension injuste qui est présente ici est par exemple celle des pesticides. Donc il faut savoir que jusqu'à récemment, jusqu'au mois de juin, la Belgique exportait des pesticides produits en Belgique et pourtant interdits en Belgique. Donc jusque depuis le mois de juin, un arrêté royal a été pris pour mettre fin à cela, mais c'est une pratique encore largement au sein de l'Union européenne. Donc au sein de l'Union européenne, des pesticides qui sont interdits d'utilisation en Europe sont exportés. Et donc, les agriculteurs et les agricultrices des autres continents continuent à les utiliser. Ceci est un problème pour leur santé, pour l'environnement, et revient pour les consommateurs européens, puisque ces produits qui sont cultivés avec ces pesticides sont finalement importés en Europe. Donc, il y a un gros problème de cohérence avec la politique européenne et les accords de libre-échange. Il y a une demande forte de la société civile pour mettre en place des mesures miroirs, pour mettre fin, les pesticides, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour mettre fin à ce genre d'injustice, si on peut les appeler comme ça.
Merci beaucoup. Alors, vu le peu de temps qui reste devant nous, je propose de continuer à zoomer et d'atterrir sur la situation en Belgique. Alors Manuel, au début, quand on était dans le contexte global, tu as pas mal parlé d'accaparement des terres, qui est une notion qu'on associe, ou un problème qu'on associe généralement au sud global. Mais en fait, en Belgique, on a aussi des grands problèmes d'accès à la terre et des cas d'accaparement des terres par des entités privées plus ou moins grosses. Je pense par exemple au cas de l'entreprise Colruyt. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer les défis concernant cet accès à la terre chez nous, entre guillemets, en Belgique?
Oui, donc effectivement, on voit que cette logique d'accaparement, elle a lieu aussi en Belgique. On a réussi à visibiliser cette lutte contre Colruyt, donc qui achète des dizaines, centaines d'hectares de terres ici en Belgique. Il y a d'autres entreprises agro-industrielles qui commencent à acheter des terres en Belgique. Et donc, on voit ce même phénomène d'accaparement des terres qui commence à avoir lieu en Belgique. Et en tout cas, l'accès à la terre est vraiment vu comme une des difficultés majeures pour les agriculteurs, agricultrices ici, surtout les nouveaux agriculteurs qui veulent se lancer et qui font face à des prix des terres qui sont complètement déliés de la valeur agronomique que vous pouvez retirer. Donc quand vous lancez une activité agricole, le revenu que vous allez pouvoir tirer, c'est combien vous allez pouvoir vendre vos cultures, légumes ou produits. Et si vous avez une terre qui coûte parfois, la moyenne est à 35 000 euros l'hectare, mais ça peut monter jusqu'à 100 000 euros l'hectare, vous vous endettez pour des générations et vous savez que vous n'allez jamais pouvoir rembourser votre terre sur base des revenus que vous allez tirer de votre activité agricole. Et donc là, ce qui nous semble important, c'est de réussir à retrouver une régulation de ce marché agricole pour qu'il soit accessible en fait à nos agriculteurs. Et une première chose qui nous semble importante, c'est tout d'abord de protéger les ressources de terres agricoles qui nous restent en Belgique. Parce que contrairement au reste du monde où on continue quand même à défricher, à déforester, en fait en Belgique, en Wallonie, ce qu'on voit, c'est que les terres agricoles diminuent, surtout du fait de l'urbanisation croissante, de la construction de nouveaux zonings industriels. C'est tout ce qu'on appelle l'urbanisation ou l'artificialisation des sols agricoles. Et que ça, il faut mettre un stop immédiat. Pour l'instant, nos gouvernements sont engagés, mais ils disent qu'on arrêtera l'artificialisation en 2050. 2050, mais c'est beaucoup trop loin. Il y a certaines politiques qui sont mises en œuvre, mais bref, ça ne va pas du tout assez vite et assez rapidement. Donc il faut arrêter cette artificialisation des sols et il faut réguler le marché foncier. Alors réguler, ça fait évidemment peur à beaucoup de formations plutôt libérales et attachées au libre-échange à la liberté d'entreprise. Mais on a des exemples pas très loin de chez nous. En France, par exemple, ils ont une institution publique qui s'appelle les SAFER et qui peut contrôler le prix du marché foncier. Et donc, vous avez cette institution qui est au courant des transactions foncières qui vont se passer et peut dire « Ah, désolé, mais là, le prix de vente de vos terrains est trop important. Vous devez le ramener à un prix correct au niveau du marché. » Vous pouvez aussi carrément, les SAFER peuvent dire « Non, mais en fait, cette terre agricole, vous n'allez pas pouvoir la vendre à tel agriculteur qui a déjà trop de terres par rapport à la moyenne régionale, mais plutôt favoriser l'installation d'une nouvelle entité ou d'un paysan qui n'a pas encore beaucoup de terres. » Et donc, vous avez ce contrôle qui est possible et qui est faisable. Et on constate que, par exemple, en France, dans la région parisienne, qui est quand même aussi densément peuplée que chez nous, eh bien, vous avez des terres agricoles qui sont 3 à 4 fois moins chères que les terres en Belgique. Donc, ça peut avoir un impact énorme. Une autre mesure qu'on demande, c'est de lutter contre la concentration des terres et surtout mettre en place une politique de transmission des terres. Parce que pour l'instant, on a plus de 55... on a plus de la moitié et même une grande majorité des agriculteurs qui ont 55 ans et plus, et donc ils vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années, et qui n'ont pas de repreneurs. Donc ça veut dire que si elles partent à la retraite, ces terres vont être soit accaparées par des grands acteurs ou venir gonfler encore les grandes fermes existantes. Et donc on va se retrouver avec quelques méga-exploitations qui vont être de plus en plus grandes, mais on aura de moins en moins de paysans. Et donc là, il faut vraiment trouver une manière de que ces grandes fermes soient transmises et redistribuées pour une réinstallation de nouveaux paysans. Et alors, une mesure qu'on met fort en avant aussi, c'est que les pouvoirs publics, en fait, sont propriétaires d'une certaine quantité de terres. On évalue à environ 65 000 hectares, donc ça représente 10% en Wallonie, un peu moins, 7-8% de terres, mais c'est quand même une quantité significative. Et que là, il faut réussir à utiliser pour des projets d'installation, pour des espaces tests agricoles, pour des projets agroécologiques. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les pouvoirs publics, c'est par exemple des CPAS, des communes, on parle aussi de fabriques d'églises, dont la mission première n'est pas forcément l'agriculture. Et donc, eux, ce qu'ils font pour l'instant, c'est qu'ils revendent ces terres agricoles au plus offrant pour pouvoir renflouer leurs caisses et remplir leurs autres missions. Et donc, il faut une politique publique cohérente pour assurer cet accès à la terre.
Merci beaucoup. Donc, protéger les terres agricoles, réguler le marché foncier, lutter contre la concentration des terres et, in fine, utiliser les leviers publics qu'on a, ou en tout cas les terres publiques pour des projets porteurs de transition agroécologique. Alors, juste avant, quand on part dans les deux autres niveaux, le niveau européen, le niveau mondial, on a eu beaucoup de critiques sur justement les accords de libre-échange, sur la manière dont on fait circuler les denrées agricoles. Est-ce que sans ça, on va dire, on peut s'en sortir? Est-ce que la Belgique, elle peut atteindre ce qu'on appellerait une souveraineté alimentaire belge? Déjà, qu'est-ce que ça signifie, une souveraineté alimentaire belge? Et est-ce qu'elle est possible? Alice, je vois ta tête, je suis désolé, mais c'est pour toi.
Comment répondre à ça? Donc, la question de la souveraineté alimentaire, je pense, comme je l'ai abordé plus haut, c'est pour moi, c'est une question d'inclusivité. Donc, c'est que les personnes qui sont concernées par les décisions y prennent part. On peut voir avec les mobilisations agricoles que ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, voilà. Après, c'est quelque chose qui peut évoluer, mais pour ça, il faut mettre en place des changements institutionnels au niveau politique. Après, est-ce que la Belgique peut être autonome au niveau de l'alimentation? Ça, je pense que c'est une question différente. C'est-à-dire, est-ce que la Belgique peut actuellement se nourrir elle-même juste avec les terres qui sont en Belgique? Actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc, est-ce que ce sera possible un jour? C'est une bonne question, l'avenir nous le dira. En fonction de l'évolution de la démographie, de la manière dont sont occupées les terres, etc. Dans quel futur c'est possible, je ne sais pas. Je pense que les chercheurs ont un bon sujet de recherche avec ça. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être faites pour diminuer la dépendance aux exportations et pour redistribuer de manière plus juste et plus équitable l'utilisation mondiale des terres. La première chose, c'est bien sûr de relocaliser les systèmes alimentaires. Même si la Belgique ne pourra pas être autonome dans un futur proche avec ce qu'elle produit ici, c'est déjà un pas nécessaire, même si pas suffisant. Après, est-ce que l'autonomie est désirable, c'est un autre débat, mais voilà, de toute façon, la relocalisation est nécessaire pour une transition écologique et pour une question de sécurité alimentaire durable. Relocaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire produire. Produire ici, plus localement. Alors, se pose la question, qu'est-ce qu'on peut produire ? Puisqu'en fait, ce qu'on peut produire dépend de notre environnement. Et donc, c'est justement rentrer en connexion avec notre environnement et réapprendre à le découvrir. Donc, plutôt que de vouloir manger quelque chose parce que, voilà, c'est les habitudes qu'on a prises, c'est parce que le système alimentaire mondial nous a permis de manger ce qu'on veut, des fraises toute l'année, des avocats toute l'année, etc. Donc c'est de nouveau, c'est changer de paradigme, c'est changer de rapport au monde et c'est se reconnecter avec son environnement. Ensuite, c'est aussi, ça demande du coup, d'une part, de produire, d'avoir des terres disponibles, d'avoir des agriculteurs qui ont la capacité, agriculteurs, agricultrices qui ont la capacité de s'installer. Et pour qu'elles aient la capacité de s'installer, il n'y a pas seulement la question des terres, mais aussi la question des prix, comme on l'a déjà abordé. Et donc pour ça, de nouveau, je vais reprendre un mot que Manuel a dit, une régulation est nécessaire. Puisque on voit bien que le libre marché ne permet pas aux fermes aujourd'hui d'être rentables. Elles sont en voilà, c'est difficile pour les agriculteurs et agricultrices d'avoir un salaire décent, et donc des lois sont mises en place, peuvent être mises en place pour réguler les prix et pour que les fermes puissent être durables et aller toujours plus dans cette voie de relocalisation. Ensuite, il y a la consommation qui a besoin aussi d'équilibrer. Donc, je parlais de reconnecter avec son environnement, ce qui peut nous produire. Cette consommation, les rapports le montrent, scientifiques, qu'on a besoin de végétaliser notre alimentation. Voilà, les 50 dernières années qu'on a vécues, elles sont hors du commun au niveau de l'histoire de l'alimentation mondiale. Pour nous, c'est la norme parce qu'on est né comme ça, on a grandi comme ça, donc pour nous, c'est la norme. Mais quand on la met en perspective, c'est seulement depuis 50 ans qu'on mange autant de viande, de produits laitiers, de produits transformés. Et voilà, ça pose plein de problèmes au niveau des écosystèmes, au niveau de la dégradation de l'environnement, mais aussi au niveau de la santé. Et donc, on a tout à gagner à végétaliser notre alimentation et la relocaliser. Et pour ça, on a besoin de politiques fortes qui permettent aux fermes d'être durables économiquement et Voilà, vous m'avez compris.
Donc, relocaliser, végétaliser, réguler. Est-ce que, Manuel, tu vois d'autres alternatives concrètes qu'on peut mettre en place pour une transition des systèmes agricoles qui soit en harmonie avec une transition écologique ?
D'aller dans ce sens-là, c'est clair. Donc, moi, peut-être ce que je vais ajouter ici, c'est que pour arriver à tout ça, on a besoin de se mobiliser et de s'engager. Et donc là, voilà, c'est l'appel surtout aux jeunes générations que vous êtes de faire bouger les choses. Et je pense qu'on est quand même... il y a des mouvements qui se mettent en place. Et nous, dans le secteur alimentaire, on a plusieurs initiatives où on essaye de participer à ces manifestations agricoles. Mais on a aussi mené plusieurs actions. Et donc là, on peut peut-être remettre quelques images que j'ai amenées ici. Et on a en fait un réseau qui s'appelle le réseau de soutien à l'agriculture paysanne. Qui travaille aussi avec un autre mouvement plus sur les aspects politiques, agroécologie in action, et on essaye de vraiment soutenir ces transformations des systèmes alimentaires en organisant des manifestations. Donc là, par exemple, c'est une mobilisation qu'on avait fait à Perouet, où il y avait un zoning commercial qui devait s'agrandir et où on a été manifester, et c'est devenu une tradition, planter des pommes de terre sur ces terres qui étaient menacées pour réclamer justement une souveraineté alimentaire et pas une extension du bétonnage. Peut-être si tu remontes au-dessus, je pense. Là, c'est le soutien justement récent aux mobilisations agricoles qu'on a fait avec ce réseau de soutien à l'agriculture paysanne. Là, c'était justement aussi un 17 avril, donc qui est la journée internationale des luttes paysannes. on avait été mener une action devant l'entreprise Clarboat. Alors Clarboat, c'est pas un nom que généralement on connaît. Pourtant, c'est le premier producteur européen de frites. Je vois qu'il y en a quand même qui connaissent. Donc c'est notre grand fournisseur belge de frites de McDo et autres malbouffe. Il faut savoir qu'en Belgique, par exemple, on est le premier exportateur mondial de produits à base de pommes de terre, donc de frites. Et en fait, plus de 90% de la production de pommes de terre part sous forme d'exportation en frites industrielles. Donc on produit, alors selon les estimations, ça va entre 8 à 16 fois la quantité de pommes de terre dont on a besoin pour se nourrir ici en Belgique. Et donc cette production est principalement destinée aux exportations industrielles. Et là, vous avez Clarboat qui voulait, malgré tout ça, reconstruire une énorme entreprise qui allait encore doubler ses capacités de production. Enfin, c'était un truc gigantesque. Et là, pour montrer quand même que parfois la lutte, ça marche, on a réussi vraiment à bloquer ce projet de construction de l'entreprise. Donc ça marche. Et alors, il y a peut-être une initiative oui, là, c'était contre le Forum for the Future of Agriculture, où tous les lobbies de l'agroalimentaire se rassemblent pour faire pression sur les politiques européennes qu'on a perturbées. Et puis alors là, maintenant, si tu redescends, je voulais présenter aussi, peut-être vous avez déjà entendu parler du réseau des brigades d'action paysanne, voilà, qui est un réseau d'activistes, alors qu'ils se rassemblent pour deux raisons. C'est d'une part aller faire des chantiers directement dans des fermes agroécologiques et donc venir directement prêter main forte et mettre les mains dans la terre pour aider la transition des agriculteurs et de participer justement à des mobilisations plus politiques et sociales pour transformer les systèmes alimentaires.
Merci beaucoup pour ces initiatives aussi concrètes et parfois pour tous d'espoir, en tout cas le combat contre les frites. C'est donc la fin de cette conférence. Merci beaucoup d'avoir assisté jusqu'au bout.